Les rivières au micro, avec l'écho de l'eau. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous écoutez l'écho de l'eau sur Radio Alliance Plus. Nous sommes Elena et Julie, de la Fédération de pêche du Gard, et c'est avec un petit pincement au cœur que nous enregistrons un de nos derniers épisodes. Et pour l'occasion, nous allons tout simplement vous parler de la rivière. Parce qu'on a déjà parlé spécifiquement des poissons migrateurs, comme la lauze et l'anguille, on a parlé des écrevisses, du castor, des plantes exotiques envahissantes, et même d'un géant de nos cours d'eau. Mais la rivière dans tout ça, comment est-elle organisée et comment les poissons se répartissent-ils? Tiens, d'ailleurs, à votre avis, combien d'espèces de poissons retrouve-t-on dans les eaux douces du Gard?
Pour vous donner un ordre de grandeur, en France, on compte actuellement 108 espèces différentes.
Alors? Bon, pour ceux qui ont dit 50, bravo, puisqu'on en dénombre actuellement 53 espèces dans les cours d'eau de notre département. Mais une chose est sûre, si on trouve autant d'espèces différentes, c'est surtout grâce à la diversité des cours d'eau. Et oui, dans le Gard, on compte plus de 5000 km de rivières. Donc forcément, on ne trouve pas les mêmes poissons dans les Cévennes que dans le Rhône.
Et vous allez voir, ce n'est pas la peine de voyager jusqu'à l'autre bout du monde pour trouver des espèces uniques en leur genre. Et pour commencer notre balade le long du cours d'eau, rendons-nous à l'origine de toute rivière, là où l'eau fait surface. Une source, évidemment. Généralement, une source, ça se trouve en altitude, avec une très forte pente pouvant même former des cascades. Et même si l'eau qui y jaillit est globalement très pure, bah, on n'y trouve pas grand-chose. Quelques insectes, quelquefois des larves d'amphibiens s'il n'y a pas beaucoup de courant, mais pas de poissons. Ça peut paraître assez surprenant, puisque l'eau n'y est pourtant pas polluée, mais c'est en fait un milieu très contraignant. Il y a très peu d'eau, donc c'est assez compliqué de s'y installer, et il manque des nutriments.
Mais quelques mètres plus loin, le ruisseau commence à prendre vie. La végétation en bordure apporte de la matière organique, et à partir de là, tout s'accélère. La rivière devient un écosystème où la vie est partout. En fait, cette matière organique va diversifier la quantité d'insectes aquatiques, qui eux-mêmes vont permettre la présence de prédateurs, et ainsi de suite. C'est généralement là qu'on trouve, sans doute, la plus célèbre, la plus populaire de toutes les espèces de poissons. Vous l'aurez deviné, il s'agit de la truite commune. Si la truite est aussi célèbre, c'est sans doute grâce à sa popularité auprès des pêcheurs. Et oui, c'est une espèce considérée comme prestigieuse. Sa pêche peut être très technique et très sportive, et en plus, la truite c'est super bon.
Ce que vous ne savez sûrement pas, c'est que la truite a un super pouvoir d'adaptation. Même si elle se trouve généralement dans les rivières où l'eau est très claire, fraîche et courante, il existe en fait trois formes écologiques de truite. La truite de rivière, la truite lacustre et la truite de mer. Non, non, il ne s'agit pas d'espèces différentes, mais bien d'une seule et même espèce. Et en fonction de son environnement et de son héritage génétique, elle va exprimer une certaine forme. Bon, il y a très peu de chances qu'un œuf de truite qui éclot dans nos Cévennes arrive à migrer vers la Méditerranée et devienne une truite de mer. Ces deux milieux sont séparés par plusieurs centaines de kilomètres, mais en Bretagne, par exemple, ça se peut.
La truite fario, c'est évidemment pas la seule espèce remarquable qu'on trouve au début de nos rivières. Il y en a une autre qui affectionne les mêmes conditions, et même si elle est bien moins connue, elle est tout aussi originale. C'est le chabot. Alors pour le coup, le chabot, si on le compare avec la truite, il fait un peu moins rêver. Déjà, il faut savoir ouvrir ses yeux pour le voir, parce qu'il est très petit, et se camoufle parfaitement avec le fond de la rivière. Il a une tête disproportionnée, avec des yeux globuleux, de larges nageoires pectorales, comme des éventails, et il passe son temps tapis au fond de l'eau pour éviter le courant. Et c'est bien normal, puisqu'il ne sait pas nager. Ah oui, vous avez bien entendu, on a un poisson qui ne sait pas nager. En fait, même si le chabot a de grandes nageoires, il fait partie des rares espèces qui n'ont pas de vessie natatoire. Et sauf que la vessie natatoire, en fait, c'est un organe qui se remplit plus ou moins d'air pour permettre au poisson de se mouvoir entre la surface et le fond de la rivière.
Et comme notre pauvre chabot n'en a pas, il passe son temps tapis au fond de l'eau, comme collé au galet. Bon, pour autant, il a appris à se débrouiller sans et il ne passe pas sa vie au même endroit sous prétexte qu'il ne sait pas nager. Alors, comment fait-il pour se déplacer? Eh bien, tout simplement, il utilise ses grandes nageoires pour se propulser ou faire des petits sauts entre les pierres. Pour l'observer, il faut être patient, mais on peut le retrouver dans presque toutes les rivières d'Europe, du moment que l'eau est bien froide, au fond propre et avec du courant.
En descendant notre rivière, l'eau va se réchauffer et son lit s'élargit grâce à l'arrivée de nouveaux cours d'eau. À partir de là, on ne trouvera plus beaucoup de chabots ou de truites, qui n'apprécient plus vraiment ces conditions environnementales. Mais bien entendu, parmi nos 53 espèces de poissons, il y en a tout de même qui vont trouver leur bonheur ici, et d'ailleurs bien plus qu'au début de notre rivière. On pourrait citer par exemple le chevesne, le gardon ou le barbeau, mais j'aimerais plutôt vous évoquer des espèces un peu moins connues, le blajon et le toxostome. Outre le fait qu'ils ont un nom à coucher dehors, je suis persuadée que vous n'en avez jamais entendu parler.
En occitan, on les appelle des sophies. Mais le problème, c'est que dans l'Aude, un sophie, c'est un toxostome, alors que chez nous, le sophie, c'est le blajon. Alors que oui, pourtant, ce sont bien deux espèces différentes, aux caractéristiques morphologiques également différentes. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de pouvoir bien les observer. Ce sont des poissons quelque peu ordinaires, de taille relativement petite, grand maximum 25 cm, aux écailles argentées et qui forment de petits bancs.
Bon, bref, des poissons de rivière, quoi.
Alors oui, mais pourtant ils sont particuliers. Ne les cherchez pas ailleurs parce qu'ils sont propres de chez nous. Oui, messieurs, dames, ces petits poissons ne se retrouvent que dans les rivières du sud de l'Europe à l'état naturel. J'aurais pu également vous parler du barbeau méridional, aux multiples noms français locaux.
Le barbel, le drogan, le durgan, le tourgan, le turgan, le barbeau truité.
Qui, lui, est bien spécifique des rivières méditerranéennes. Mais je ne peux pas vous présenter tous mes poissons favoris ici. Donc, continuons notre périple au bord de l'eau. La rivière continue de s'agrandir et de se réchauffer. Elle alterne entre des zones de radiers qui permettent à l'eau de s'oxygéner et des grandes zones lentes et profondes. Nous ne sommes plus très loin du fleuve et la diversité de poissons continue à augmenter. La liste est longue, mais on va s'arrêter quelques instants pour observer une petite espèce qui mérite toute notre attention. La bouvière.
Alors la bouvière, c'est un petit poisson assez rare qui fait autour de 6 cm à taille adulte, qui a de jolies nageoires rouges et un élégant liseré bleu vers sa nageoire caudale. Mais ce ne sont pas ses nageoires qui font sa particularité, c'est son mode de reproduction. Et oui, la bouvière, c'est une espèce parasite. En fait, pour protéger ses œufs, la femelle bouvière a trouvé un moyen assez efficace. C'est de les pondre directement dans une moule. Oui oui, des moules on en trouve aussi en eau douce, c'est pas réservé à l'île d'Oléron. Une fois que l'œuf est pondu et fécondé, il sera protégé des prédateurs à l'intérieur de la moule. En contrepartie, la moule fait à peu près la même chose, rassurez-vous. C'est une bonne guerre. En effet, la moule d'eau douce est aussi parasite de la bouvière, puisque dès qu'elle détecte qu'un poisson s'approche assez d'elle, la moule va projeter des milliers de petites larves qui vont venir s'agripper aux branchies. À partir de là, les larves vont se nourrir et grossir à l'intérieur des branchies du poisson. Bon, bien sûr, ni la moule ni le poisson ne mourront une fois parasités. C'est pas dans leur intérêt, puisque sinon leur descendance serait aussi condamnée. Le problème, c'est que ces deux espèces sont devenues dépendantes l'une de l'autre pour survivre. Et comme les populations de moules sont en déclin en raison de la pollution de nos cours d'eau, eh bien les bouvières aussi le deviennent.
Continuons maintenant notre chemin pour se rapprocher encore un peu plus de la mer. Notre ruisseau est devenu une rivière qui elle-même s'est jetée dans un fleuve. La vitesse du courant a baissé, mais la profondeur et la diversité d'espèces qu'on y trouve atteignent leur paroxysme. C'est ici que vivent les plus grands prédateurs, comme le sandre, le silure ou encore le très célèbre brochet. Le brochet, c'est un peu le requin de nos cours d'eau. Déjà de par sa taille, parce qu'il peut mesurer plus d'un mètre, mais surtout par sa dentition. Le brochet a environ 700 dents, qui se renouvellent tout au long de sa vie. Exactement comme les requins. De nature relativement calme, il n'en reste pas moins un redoutable prédateur. Sa technique ? S'approcher très discrètement de sa proie, au point de ne plus voir bouger ses nageoires, et une fois à 30 cm à peu près, attaquer en un éclair, à une vitesse de 50 km/h. Sur d'aussi courtes distances, je vous assure que c'est très rapide.
Bon, par contre, rassurez-vous, les brochets n'ont jamais mangé qui que ce soit. Ils se contentent de réguler les populations de gardons, de brèmes et de carpes, etc.
Une fois à l'arrivée à l'estuaire, l'eau douce prend fin. On y retrouve bien des poissons qui vont partager leur vie entre eau douce et eau salée. Mais en ce qui concerne les milieux marins, on laisse plutôt la place à Clotilde de vous expliquer tout ça dans son émission À l'océan.
Chers auditeurs, c'est déjà la fin de cette balade le long de la rivière et qui marque aussi la fin de notre épisode. On espère qu'elle vous a plu et que grâce à nous, vous en savez désormais plus sur les cours d'eau et ses habitants. Vous pouvez réécouter cet épisode sur le site de Radio Alliance Plus et peut-être même nous croiser à l'occasion, puisque la Fédération de pêche est présente à de nombreuses animations pour vous partager ses connaissances.